Après Révolution musicale 1967, 68, 69 de Penny Lane à Altamont, la maison d'édition marseillaise Le Mot et le Reste vient de publier dans le cadre de sa collection Forme le livre Cover, une histoire de la reprise dans le rock, livre écrit par Emmanuel Chirache, rédacteur en chef du webzine Inside Rock. Un livre dans lequel l'auteur propose de regarder le rock à travers le processus ambigu de la reprise depuis Elvis Presley jusqu'à nos jours. Emmanuel Chirache était à Marseille, dans le jardin de la librairie L'Histoire de l'œil à la Plaine, pour une rencontre publique et musicale autour de son livre, interview sur la grenouille en compagnie de Gilles Borgogno de L'Oreille Cassée.
Au départ, c'était un article d'un site internet Inside Rock, et c'est devenu un bouquin. Et puis l'intérêt aussi, c'est que c'est pas une biographie, par exemple, ou c'est pas une liste de disques. Ça m'intéressait pas de faire 400 disques, tu vois, sur un sujet. Ça m'intéressait de faire un truc transversal où j'allais parler de plein de sujets différents et de ce qui m'intéresse. La musique noire, la musique blanche, ça m'intéresse. Le blues anglais, ça m'intéresse. Ça permettait de brasser très large. Voilà.
Donc c'est une histoire de la reprise. Toi, tu prends le terme anglais de cover pour des raisons particulières?
Oui, parce que reprise, on dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Cover, en anglais, ça veut dire couvrir. Et j'aime bien ça parce que c'est vrai que souvent, finalement, au lieu d'être un hommage, ça plombe plus l'original, parce que si une reprise est réussie, on se souvient plus de la chanson qu'il y a derrière. Il y a plein de gens qui pensent que certaines chansons sont des originales, alors que non, ce sont des reprises. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir derrière l'original. Et c'est pour ça que finalement, c'est le côté paradoxal de la reprise, voilà.
Moi, c'est une question toute bête. C'est quoi tes 5 reprises préférées? Celles qui transcendent la reprise?
Alors, je m'y attendais un peu. C'est dur, c'est très dur. Mais pour moi, les artistes qui réussissent justement quelque chose en reprenant une chanson, c'est d'abord, c'est un peu banal, mais Elvis Presley. Parce que vraiment, là, c'est... Aujourd'hui, on a du mal, avec le recul, 50 ans après, ça paraît banal d'écouter Elvis Presley, mais à l'époque, c'est quelque chose d'incroyable. Vraiment, reprendre la musique noire comme il le fait, personne n'a jamais entendu ça, et tout le monde à l'époque est d'accord pour le dire. Aujourd'hui, il n'y a pas d'artiste qui, comme Elvis Presley, vient, prend la chanson de quelqu'un d'autre, et met tout le monde d'accord, et met tout le monde par terre. Ça n'existe plus, ça. Donc ça, c'est très fort. Et derrière, moi, particulièrement, j'adore les groupes anglais du début des années 60, les Stones, tous ces groupes qui reprennent le blues noir, parce que quand on fait la différence, on voit qu'il y a une plus-value, il y a quelque chose, il se transcende comme jamais. Aujourd'hui, il n'y a pas un groupe qui est capable de faire ça vraiment, et c'est les Stones, mais il y en a plein, les Animals, les reprises des Yardbirds, tout ça, c'est assez frappant. Aujourd'hui, il y en a encore des artistes que j'aime bien, je pourrais citer Mark Langan, qui a fait un disque de reprise fabuleux, où il y a un bluesman norvégien qui s'appelle Bjørn Berge. J'en parle parce que je l'ai vu sur scène. Il joue avec une slide guitare, donc en blues, avec une guitare 12 cordes, des morceaux, par exemple, de métal, tout seul, et c'est incroyable. Il joue du Black Sabbath, du Rage Against the Machine, il est seul, il a sa guitare acoustique, et on a l'impression que voilà, c'est mieux que de voir Black Sabbath sur scène, quoi.
Ton livre, c'est une histoire de la reprise dans le rock'n'roll, donc à peu près des années 50 jusqu'à nos jours. Et au début, on faisait reprendre des chansons du patrimoine noir par des blancs. C'est un peu l'idée de transcender les barrières raciales et de mettre tout le monde d'accord.
Au début, oui. C'est vrai que ça fait un peu gnangnang, mais c'est vrai qu'il y a un côté quand même assez, assez beau. Enfin, finalement, parce que c'était pas les noirs se sont tellement fait piller que quelques personnes comme ça et envie de leur rendre hommage, comme le producteur de Elvis Presley, puis après les Anglais, des petits gringalets comme ça, comme Eric Burdon ou Keith Richards, Brian Jones, qui sont des passionnés. C'est assez touchant de voir qu'il y a des gens quand même qui avaient au départ, même si après on pourra dire ce qu'on veut, hein, ils deviennent des types aussi avides de fric, mais au départ, il y a quand même quelque chose d'assez beau qui est l'idée de reprendre de la musique noire et de lui rendre hommage. Parce que si tu regardes les années 50, c'est le terrain d'entente entre noir et blanc, c'est le seul moyen qu'ils ont d'être d'accord et d'être ensemble, c'est la musique. Et ça aussi, c'est fou de voir des concerts dans les années 50 où on voit des noirs et des blancs ensemble, au concert de, je sais pas, Elvis Presley, Little Richard, Chuck Berry. Même si encore dans les concerts, il y a encore de la ségrégation et que les noirs et les blancs sont séparés parfois, au moins ils sont déjà ensemble pour voir le même artiste. Et ça, c'est aussi assez incroyable.
For you, that's all right, no mama. Any way you do, but that's all right. That's all right. That's all right, now, mama. Any way you do. Well, my mama, she done told me. Papa told me too. The life you live in, son, now women be the death for you. That's all right, that's all right now, mama, any way you do, yeah, man.
Au départ, il y a des blancs comme Elvis Presley qui reprennent le patrimoine musical noir pour en faire quelque chose d'autre. Et peu de temps après, il y a aussi des musiciens noirs qui se mettent à reprendre le patrimoine musical blanc, c'est-à-dire la country, et qui là, ça se fait un peu dans la douleur, c'est-à-dire qu'ils sont un peu pointés du doigt comme étant des traîtres à la communauté noire.
Ouais, ouais, parce que surtout, on va dire, à la fin des années 60, où là, on a l'identité noire commence à s'affirmer, on a les Black Panthers, on a en plus les droits, la bataille des droits civils commence un petit peu à s'enliser, donc les gens sont désabusés, on a plein d'artistes noirs qui vont se radicaliser, etc. Et donc c'est encore moins bien vu de reprendre la musique blanche. Là, les liens vont devenir plus ambigus, plus...
Qui sont les principaux traîtres ?
Alors, d'abord, Ray Charles, le plus grand d'entre tous, qui va faire un album de country génialissime en 62. Après, il y a Nat King Cole, il y a Aretha Franklin, qui pendant longtemps représentait la cause noire et était considérée comme... Il y a un article de Time Magazine de l'époque sur la soul qui dit... C'est pas bien, les noirs qui reprennent la musique blanche sont un peu montrés du doigt, c'est pas terrible. Mais Aretha Franklin, elle le fera jamais. Et qu'est-ce qu'elle fait un an après? Elle fait Eleanor Rigby des Beatles.
En même temps, les Blancs qui reprennent la musique noire, Gilles l'a rappelé tout à l'heure, il y a un sénateur américain qui dit que reprendre cette musique, ça ravale le Blanc au rang de nègre. Oh, c'est ça.
Ben c'est en ça aussi que c'est très fort à l'époque, c'est très violent, c'est que les gens qui faisaient ça, c'était pas facile quoi pour eux de faire ça. C'était vraiment une vraie révolution et c'était important. C'était pas aller dans le politiquement correct. Je veux dire, pour eux, chanter un morceau de Chuck Berry ou d'un vieux bluesman noir, c'était pas facile. C'était vraiment, fallait aller contre les idées reçues.
Quand Rachid Tahar reprend Douce France de Charles Trenet, est-ce que finalement il fait pas le même geste que les artistes black américains qui reprenaient le répertoire blanc ?
Alors ouais, complètement. Et j'en ai pas parlé, mais j'y ai pensé très fortement. Je pouvais pas parler de tout, mais effectivement, quand Rachid Tahar il fait Douce France, c'est très intéressant parce que effectivement c'est une déclaration. C'est effectivement comme les Noirs disent, on fait partie de ce pays, on fait partie des États-Unis, on peut chanter de la country, c'est notre culture. Rachid Tahar il fait pareil. Voilà, moi je chante Douce France, quoi. Je chante le morceau franchouillard par excellence et j'en fais un truc un peu à ma sauce. Non, ça c'est...
Et peu de temps après, il y aura la marche des beurs qui pourrait correspondre à la marche des blacks aussi.
Exactement, non, mais il y a un vrai parallèle à faire, on peut le faire. Ouais.
Well, there's one bowl of money, two bowl of show. Free to get ready now, go get go. But don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step on my face, slander my name all over the place. I do anything that you wanna do, but oh, honey, lay off of them shoes. Burn my house, steal my car, drink my liquor from my old fruit jar. Do anything that you wanna do, but oh, honey, lay off of them shoes. Don't you step on.
Là, on est dans les années 50, 60. Il y a deux innovations majeures que tu signales dans ton livre, donc Cover. C'est que la première, c'est que le 78 tours disparaît, le 45 tours et le 33 tours apparaissent, donc avec des formats différents et des 33 tours notamment donc, qu'il faut remplir. Et aussi, les Beatles amènent pour la première fois un groupe qui crée son propre répertoire. Jusqu'à là, les activités étaient séparées entre auteurs et interprètes.
Oui, exactement. Avant, aujourd'hui, c'est normal. Le modèle, c'est je joue mes chansons, quoi. Faut voir que c'est pas comme ça dans tous les courants. Dans le jazz, par exemple, c'est pas comme ça. Dans le jazz, c'est tout à fait possible d'être un artiste en reprenant le répertoire d'autres gens. Dans le classique aussi, c'est comme ça depuis très longtemps. En rock, non. Et pourtant, c'était pas toujours comme ça avant. Il y avait une distinction. On était soit interprète, soit on écrivait de la musique. Voilà. Et les Beatles, ils mettent fin à ça, parce que c'est les premiers à dire « on fait tout à la fois ». Et même, ils vont pousser le truc encore plus loin en disant « on crée notre label voilà. ».
La reprise dans ces années-là, 60-70, ça remet aussi sur le devant de la scène des artistes qui étaient complètement oubliés.
Ouais, et notamment des bluesmen. Il y a beaucoup de bluesmen des années 50 qui, dans les années 60, ont presque abandonné la musique, ou en tout cas, ne sont pas vraiment dans leur meilleure période. Et grâce aux rockers anglais, qui sont vraiment des espèces d'érudits, ce que je disais, des geeks, quoi, c'est des geeks du blues. Et en fait, grâce à eux, ils reviennent sur le devant de la scène. Et en Angleterre, ils deviennent des méga stars. Muddy Waters, c'est incroyable. Buddy Holly, tous ces gens-là. John Lee Hooker, ils font tous des tournées. Ils prennent les groupes anglais en première partie. Bientôt, ça sera l'inverse. Ça sera les groupes anglais qui prendront les bluesmen en première partie, tellement ils seront devenus connus. Et ça vaut même pour les années 70, ça continue. Et puis même aujourd'hui, regardez. Les Stones, le film de Scorsese. Ils invitent qui ? Ils invitent Buddy Guy. Voilà. Il a 79 ans, quelque chose comme ça. Ils invitent Buddy Guy sur scène, c'est le meilleur moment du concert.
Oui, moi je pense qu'on reconnaît un bon groupe souvent à l'aune de ses reprises. Qu'est-ce qu'on pense de ça ?
C'est assez vrai, même s'il y a des groupes qui sont plus forts que d'autres en termes de reprises. Mais quand on regarde les très grands groupes, en général, il y a toujours un moment, soit ils ont débuté avec une grande reprise, soit à la fin de leur carrière, ils ont fait, je prends Bruce Springsteen. Il a une longue carrière, son dernier disque, c'est, pendant un moment il est un peu végété quand même, son dernier disque c'est un hommage à Pete Seeger entier, un album, et c'est revigorant quoi, c'est-à-dire qu'il prend des vieilles chansons folk de Pete Seeger, il les joue avec son orchestre de un peu jazz blanc Dixieland, et c'est fabuleux. Et là il a une espèce de nouvelle jeunesse, donc c'est vrai qu'en général un grand artiste, ça se voit à ses reprises, il n'y a pas de souci.
Il y a des exemples de chansons particuliers dans cette histoire de la reprise dans le rock'n'roll que tu écris, notamment toute l'histoire qu'il y a autour de I'm a Man, Manish Boy, etc. Et une autre aussi qui est très connue, c'est Louie Louie.
Ouais, par exemple, Louie Louie, c'est aussi... ce qui est intéressant aussi dans ce genre d'études, c'est de voir le destin d'une chanson. Louie Louie, au départ, c'est pas une très grande chanson, c'est pas une mauvaise chanson non plus, c'est assez basique, etc. Et il y a un... Quand ça sort, en fait, les Kingsmen ils font eux-mêmes une reprise, c'est même pas leur chanson, mais c'est eux qui vont la rendre très connue. Ils font ça dans des conditions atroces, parce qu'ils ont pas, il y a pas d'argent, il y a pas assez mal foutu, ils chantent faux, enfin c'est une horreur et ça devient un tube. Et à partir de là, le morceau il va voyager quoi, il va le riff on le retrouve dans une centaine de chansons. Et on peut citer un grand nombre de classiques, du genre les Kings ou les Who, qui ont écrit des chansons à partir de ces accords. Il n'y a pas longtemps, j'écoutais un morceau de Radiohead, c'était pareil, Just de Radiohead, c'est les mêmes accords. Voilà. Et il y en a plein, des comme ça.
En fait, une question sur les gens qui pissent en vergogne, c'est Led Zeppelin, qui a même pas crédité. Est-ce qu'il y a d'autres exemples aussi criants de voleurs, il n'y a pas d'autres mots, Non, pardon, qui font des choses un peu similaires.
C'est assez récent d'ailleurs que ce soit considéré comme un plagiat, parce que pendant longtemps, c'était assez normal. On regarde l'histoire de la musique, c'est rempli de vols, de pillages. Aujourd'hui, on est une société très judiciaire, on aime bien aller aux tribunaux pour régler ça. Donc, Jimmy Page, c'est un de ceux qui vraiment a fait de ça une institution, quoi. Il n'a pas arrêté de le faire. Et on pourrait dire aussi, d'une certaine manière, Bob Dylan l'a beaucoup fait. Et ça lui a valu quelques ennuis, notamment, par exemple, il y a une de ses chansons connues qui s'appelle With God on Our Side. Une chanson qui moque un peu le patriotisme et qui est plus ou moins une reprise de The Patriot Game d'un auteur irlandais qu'il a accusé, Dylan, clairement, il lui a dit « Dylan m'a volé ma chanson voilà. ». Donc ça, oui, on peut en retrouver un paquet. D'ailleurs, sur Internet, vous trouverez assez facilement des sites où on cherche les petites ressemblances, qui a volé qui. Ouais.
La reprise, en fait, est tombée en désuétude un peu après cette histoire des Beatles qui deviennent auteurs de leurs propres chansons. De ce fait-là, les critiques rock commencent à dire « bon, bah, c'est plus intéressant quand même des gens qui écrivent leurs propres chansons que ceux qui font des reprises qu'on a déjà 30 fois entendues ».
Alors, je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a des gens qui méprisent pas mal le côté groupe à reprise. Parce que c'est vrai que ça fait, comme je l'ai dit, ça fait un peu groupe de fête de la musique ou des mariages. Bon, c'est un peu méprisé aujourd'hui où c'est l'idée de l'artiste, c'est un type qui compose. Voilà. À côté de ça, ça m'est arrivé de lire des gens qui réclament aussi des bons disques de reprise. Et je pense qu'un bon disque de reprise peut quand même avoir les louanges de la critique. Nouvelle Vague, là, qui fait de la bossa nova à partir du punk, a eu de bonnes critiques. Même Scarlett Johansson, elle vient de sortir un disque de reprise de Tom Waits, il y a des gens qui trouvent ça bien. Bon, je sais pas assez écouté pour dire, mais voilà.
Dans les années 80-90, l'idée de la reprise aussi, ça devient une histoire d'érudit du rock. C'est les gens du rock alternatif qui se penchent sur les oubliés, les inconnus de toute la période qui les a précédés.
Ouais, parce que le rock alternatif, c'est dur d'exister pour lui dans les années 80, parce qu'à côté, il y a la grosse machine du rock FM, etc. Et il se tourne un peu vers des groupes oubliés ou des groupes les grands perdants, les losers de l'histoire du rock. Et dans ce cas-là, le Velvet Underground, qui n'a pas vendu beaucoup d'albums, mais qui a une aura énorme. Et donc dans ce cas-là, effectivement, la reprise, c'est aussi le côté de vous dire, voilà, moi je vous emmerde, vous les grands, les forts, et je reprends un groupe obscur, je reprends ça, et c'est une affirmation, quoi. C'est vraiment de dire, je suis dans l'ombre, et puis voilà, ça me va très bien.
C'est une façon de construire une identité alternative.
Oui, complètement, ouais, ça fait partie de l'identité. D'ailleurs, à partir du moment où ces groupes vont commencer à devenir connus, ils sont considérés plus trop alternatifs. Et quand Nirvana, par exemple, est typiquement le groupe alternatif qui aime des groupes pas très connus. Quand on regarde les groupes préférés de Kurt Cobain, il n'y a pas de groupe très connu, à part peut-être David Bowie, mais sinon, ouais, voilà, c'est des groupes que personne connaît. Donc son idée à lui, c'est je vais les rendre aussi connus que moi, je vais profiter de ma notoriété, ils vont devenir connus. Donc il invite les Meat Puppets, qui sont... il fait des reprises, et les chansons de Nirvana, de l'Unplugged, elles datent de 83. 83, c'est dire quand même. Ça a plus de 10 ans. À partir de ce moment-là, les types, ils vont sortir un album, juste après l'Unplugged, il va se vendre, mais... 10 fois plus que toute leur discographie réunie. Et d'un autre côté, on peut dire c'est bien pour eux, parce qu'enfin, la reconnaissance. D'un autre côté, ils perdent leur âme aussi, parce que leur essence, c'est quand même d'être alternatif, de présenter autre chose. Et c'est pas forcément, on va dire, dans leur déontologie, dans leur éthique, ils vendent des disques, ils s'en foutent un peu, au départ.
La grande référence de ce rock alternatif, c'est Daniel Johnston.
Ouais, alors voilà aussi pareil, un type que personne connaît. Pourtant, il a des... ou très peu de gens connaissent, il faut reconnaître Daniel Johnston. Mais il est tellement adoré par certains... Par des grands groupes de rock alternatif que ça lui permet de vivre quelque part, enfin, d'avoir une notoriété, une postérité. Ils ont fait un disque entier de reprises donc sur Daniel Johnston et il est devenu mythique. Il est devenu mythique grâce à cette scène. Sans elle, on sait pas trop où il serait, hein. Si dans un asile encore. The Coyote Goes.
He was smiling through his own personal hell. Dropped his last dime in a wishing well, but he was hoping too close and then he fell. Now he's Casper the Friendly Ghost. He was always polite to the people who tell him that he was nothing but a lazy bum, but goodbye to them, he had to go. Now he's Casper the Friendly Ghost. Alive, you can't buy no respect like the librarian said, but everybody forget what he learned us. We were mean to him, but he never burned us in. Love lives forever. Thank you, Casper, the friendly ghost. Thank you, Casper, the friendly
Radio Grenouille. On parle du livre Cover, une histoire de la reprise dans le rock. C'est une interview de l'auteur Emmanuel Chirache en compagnie de Gilles Borgogneau de L'Oreille Cassée.
La chanson la plus reprise, c'est quoi? C'est Blowing the Wind, Riot in a Cell Block No. 9, Louis Louis.
Alors d'après le Guinness Book, c'est la chanson la plus reprise du monde. C'est considéré comme étant Yesterday des Beatles. Se disant plus de 3000 versions. Bon, après, ça a peut-être encore grossi depuis. Et c'est, en fait, quand on regarde bien, les Beatles, en général, sont le groupe le plus repris au monde, parce que quand on regarde, on voit, il y a quoi? Il y a des guitaristes de country, de jazz, il y a des jazzmen, il y a même des chanteurs lyriques qui ont repris les Beatles. Tout le monde a repris les Beatles, c'est hallucinant. Moi, c'est pas mon groupe préféré des années 60, j'adore les Beatles, mais c'est pas seulement, il faut reconnaître qu'ils ont leur composition, elles ont un côté universel qui fait que tout le monde les reprend. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs, ça veut dire qu'ils sont universels.
Il y a souvent, selon toi, des reprises qui dépassent les originaux?
Ouais, il y en a beaucoup, oui. Bah, c'est pour ça d'ailleurs que souvent la reprise dépasse l'original et la tue. C'est aussi ça qui peut arriver, quoi. Alors parfois, la reprise permet d'aller à l'original, mais bon, bien souvent, on s'aperçoit quand même que c'est l'inverse qui se passe. Une bonne reprise tue l'original. Si on prend House of the Rising Sun des Animals, au départ, elle a été jouée par plein de gens. Elle était jouée par plein de gens, et parce que c'est une chanson traditionnelle. Même Dylan la reprend, la version des Animals, elle explose la version de Dylan. Elle sera reprise encore après les Animals par plein de gens. Pourtant, on garde que celle-là en tête, alors qu'il y a d'autres gens qui l'ont reprise très bien, il faut le reconnaître. Donc oui, c'est tout l'intérêt de la reprise, c'est que parfois elle surpasse tout, c'est de la création une reprise, hein. C'est aussi un travail de compositeur.
Oui, d'ailleurs il y a une anecdote assez amusante de la reprise de You Really Got Me par Van Halen, et quand les Kings donnaient des concerts après, il y avait des jeunes qui venaient les voir qui leur disaient « Super votre reprise de Van Halen ».
Ouais, alors ça c'est marrant parce qu'il y a plein d'artistes qui peuvent dire la même chose. Quand on écoute... justement, House of the Rising Sun, pour revenir là-dessus, au départ, Dylan reprend ça à Dave Van Ronk, qui est un auteur folk, qui est son pote, quoi. Il le reprend, donc des gens après viennent dire à Dave Van Ronk, quand il joue House of the Rising Sun, elle est bien ta reprise de Dylan. Après, quand les Animals sortent House of the Rising Sun, des gens viennent voir Dylan et disent, elle est bien ta reprise des Animals. Donc, voilà. Et moi, j'ai connu des gens qui m'ont dit que Knockin' on Heaven's Door, c'était les Guns N' Roses qui l'avaient écrite. Hein. Mais regardez, là, il n'y a pas longtemps, il y a un type qui... Bon, pour les jeunes, une référence, c'est La Nouvelle Star. Vous avez un type qui est allé chanter Sunny, et il a dit, voilà, je vais vous chanter Sunny au jury, Sunny de Christophe Willem. Christophe Willem, parce qu'il l'avait chanté l'année d'avant, même à La Nouvelle Star. Donc voilà, les gens, ils pensent que Sunny, c'est quand même, que c'est Christophe Willem. C'est hallucinant, mais c'est comme ça, et finalement, c'est...
Here's one for the ladies. Rape me. Rape me, my friend. Come on, rape me. Rape me again. I'm not the only one. Nuh-uh-uh-uh, I'm not the only one. Hate me. Waste me.
taste me, my friend. I'm not the only one. Na 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 na. I'm not the only one. My favorite inside sores. I'll kiss your open sores. Thank you. Appreciate your concern. You always stink and burn. Rape me. Rape me, my friend. Ow, rape me. Rape me again.
Et des groupes célèbres qui sont connus pour leurs bonnes reprises, est-ce qu'il y en a, quand en les écoutant, à l'occasion d'une reprise, tu as dit « Oh non, ils n'auraient jamais dû la faire
» Ouais, bah alors pour parler de trucs récents, justement, oui, ça arrive. Par exemple, Nouvelle Vague, ils font donc de la bossa nova avec du punk et de la new wave. Parfois, ça marche vachement bien, c'est super. Quand ils reprennent Making Plans for Nigel de XTC, c'est vachement bien fait. Après, à côté, il y a des trucs, on se dit non, là, faut pas, là, faut. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Par exemple, ils voulaient reprendre Human Fly d'Écran, parce qu'il y a un morceau génial. Seulement, il y a des morceaux, on peut pas les reprendre n'importe comment, quoi. Et donc, en bossa nova, c'est une horreur. Voilà. Bon, on se trompe, hein, forcément, mais il faut essayer pour voir si ça marche, quoi. Et Johnny Cash, par exemple. Johnny Cash, il a fait. Voilà un gars qui a fait des reprises à la fin de sa vie. Fabuleuse, quoi.
Fantastique.
Ouais. Donc le gars, il était cramé dans les années 90, et c'est des reprises qui vont le ressusciter. Et qu'est-ce que c'est, des reprises de quoi? De country traditionnel, mais aussi, c'est là le coup génial, voilà. Ouais. Le grand coup de son producteur, c'est de lui dire bah tu vas faire des reprises de groupes récents, de groupes contemporains, tu vas reprendre Soundgarden, à Johnny Cash quand même, faut le dire, tu vas reprendre Nine Inch Nails, je veux dire, Trent Reznor, il est à plat ventre devant, je dirais. Johnny Cash a tué Trent Reznor, sa reprise de Hurt, c'est génial. Ouais. Pour le coup, on parlait de savoir qu'est-ce qui est adaptable ou pas, Johnny Cash, il a fait des essais, quoi. Il a dit, il faut que je vois si ça colle ou pas, c'est comme ça que ça marche.
Donc, si je refais l'histoire rapidement de cette histoire de la reprise dans le rock'n'roll, au début, on est sur des projets plutôt sympathiques, d'effacer les barrières raciales par la musique. Après, il y a des évolutions techniques, 33 tours, les Beatles qui deviennent auteurs, etc. Donc la reprise tombe un peu en désuétude, les rock critiques, tous les groupes se disent déjà qu'il y a plus d'argent à se faire en écrivant ses propres morceaux. Après, on a cette période un peu du rock alternatif, érudition du rock and roll, où ressortent les cadavres des placards. Est-ce que pour toi aujourd'hui, au niveau des tribute albums, des tribute bands, des sortes de clones qui sont pas vraiment des clones parce que les genres changent, etc. Quel est le projet là selon toi?
Le projet, il est un petit peu bizarre. Enfin, le projet des tribute albums, c'est finalement souvent de rendre. Quand on les écoute, quand on écoute les gens qui disent qu'ils font des tribute albums, et ils disent qu'ils veulent propager la bonne parole du groupe, quoi, qu'ils veulent le rendre encore plus connu. Ce qui est un petit peu bizarre parce que les groupes souvent sont déjà très connus. Donc le projet, il est un peu absurde, quoi. Parce que si vous prenez un tribute album d'AC/DC, il va vous dire oui, parce que je veux mettre en valeur leur musique, mais elle est déjà très connue. Donc c'est. Et puis en plus, souvent les tribute albums sont faits de manière très. Sauf certains, mais c'est très respectueux, il n'y a pas grand chose de neuf, quoi. Donc c'est un peu ça le problème, quoi. C'est qu'on peut se dire, c'est à quoi bon faire ça. Après, c'est vrai qu'on peut se demander par rapport aux tribute bands si on n'est pas en train d'arriver à un moment où le rock va devenir. On peut considérer qu'il est plus ou moins mort, en tout cas son époque. C'est un peu comme la peinture de la Renaissance. Aujourd'hui, on peindra plus comme à la Renaissance, on fera plus du rock comme Elvis Presley ou les Stones. Mais on peut considérer que peut-être qu'un jour, on arrivera où des groupes joueront la musique des Stones, comme aujourd'hui des orchestres jouent du Mozart, quoi. Pourquoi pas? Parce qu'après tout, c'est un peu ça. Genesis, les groupes qui reprennent Genesis, qui font leur spectacle, c'est purement ça. C'est, voilà, on réinterprète à la note près. Aujourd'hui, dans la musique classique, c'est pas l'idée, n'est pas de le faire à note près, c'est de mettre vraiment toute son âme. On a des grands interprètes de Chopin, etc. Chacun met sa petite touche. Peut-être qu'un jour, ce sera comme ça dans le rock aussi, et on peut l'imaginer. Peut-être que ça sera pas du tout comme ça, mais voilà.
C'était Emmanuel Chirache, rédacteur en chef du webzine rock Inside Rock et auteur du livre Cover, une histoire de la reprise dans le rock, publié par Le Mot et le Reste, maison d'édition marseillaise, dans le cadre de sa collection Forme. Un livre et une collection disponibles notamment à la librairie L'Histoire de l'Œil, librairie où une rencontre publique et musicale était organisée le 21 juin dernier à l'occasion de la sortie de ce livre. Merci à Gilles Borgogno de L'Oreille Cassée, l'émission Rock de la Grenouille. Le travail du Mot et du Reste autour du rock se poursuit. Ce sera en novembre prochain la publication d'un livre collectif autour de l'histoire des grands festivals. Plus d'infos et contacts sur www.athels.org/le-mot-et-le-reste tout attaché et sur www.inside-rock.fr.